RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous les amis, heureuse d'être avec vous ce samedi. Nous sommes le 27 novembre et une campagne ONU Femmes très importante à mes yeux a démarré il y a deux jours. Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. 16 jours d'activisme pour appeler à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles du monde entier. Selon les dernières estimations, près d'une femme sur trois, âgée de 15 et plus, a subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie et ces données concernent les femmes du monde entier. L'objectif est donc d'appeler à l'action mondiale pour sensibiliser et galvaniser le plaidoyer autour des défis de ce fléau mondial. Mission acceptée par Alors on dit quoi, qui donne la parole à la société civile, aux organisations de défense des droits des femmes, mais aussi et surtout aux victimes. Angata, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Djaran Djaï.
Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis aux côtés de Marietou Bidanessi, une jeune malienne de 30 ans. Elle est coach de vie et s'est mariée à 15 ans. Une aventure particulière, on va dire, qu'elle nous racontera. Bonjour et bienvenue Marietou.
Bonjour Tara.
Autre invitée avec moi en direct de Dakar, Oulimata Sarr, c'est la directrice régionale ONU Femmes, Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonjour Madame Sarr.
Bonjour.
Et nous avons également en ligne depuis Dakar Arlette Bikomo, qui est conseillère régionale sur les violences faites aux femmes et aux filles pour le bureau régional d'ONU Femmes de l'Afrique de l'Ouest et Centrale. Bienvenue, merci d'être avec nous, Madame Bikomo.
Merci, bonjour.
Oulimata Sarr, je m'adresse directement à vous pour vous poser cette question. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, que représente cette campagne pour ONU Femmes ? Nous sortons à peine d'une crise sanitaire mondiale qui a par ailleurs bouleversé nos vies. Est-ce que cette campagne revêt d'une importance particulière cette année encore ?
Absolument, Diarra, puisque on s'est rendu compte durant la Covid-19, la pandémie, que les violences faites aux femmes étaient en pleine croissance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours très important du secrétaire général des Nations Unies. Il a appelé les violences faites aux femmes durant cette période de confinement et de pandémie la pandémie de l'ombre. Aujourd'hui, ONU Femmes sort un rapport très important qui couvre 13 pays. Presque 16 000 femmes ont répondu à ces enquêtes rapides pour savoir comment elles ont été affectées par la pandémie. Et les pays qui ont été couverts en Afrique, c'est notamment le Kenya, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et les femmes, une femme sur deux, avoue avoir subi une forme de violence physique et sexuelle durant cette période-là. Donc la Covid a montré au monde entier que ces violences faites aux femmes n'étaient pas confinées ni à un continent, ni à un groupe, puisqu'on s'est retrouvés avec les femmes du monde entier qui témoignaient des violences qui leur avaient faites durant les périodes de restrictions de mouvement et de confinement.
Arlette Bikomo, vous qui êtes conseillère régionale sur les violences faites aux femmes et aux filles pour le bureau ONU Femmes, en quelques mots, pouvez-vous nous dresser un tableau justement des violences dont on parle ? De quelles violences parle-t-on exactement ?
Alors, lorsqu'on parle des violences à l'égard des femmes, il faut savoir que ça couvre énormément de formes de violences. Nous parlons des violences économiques, donc celles qui sont liées à la vulnérabilité économique des femmes. Nous parlons des violences domestiques qui sont faites dans un cadre privé. Et tout à l'heure, je pense qu'Oulimata en a cité quelques-uns. Nous parlons également des violences sexuelles qui sont parfois liées à des conflits. Nous parlons également de plus en plus de la violence dans le cyberespace. Nous parlons de l'exploitation sexuelle avec tous les problèmes de trafic humain que nous rencontrons dans notre région. Nous parlons d'harcèlement sexuel. Donc la liste est vraiment à l'infini, mais voilà les principales formes de violence que nous pouvons citer.
Merci pour ces précisions. Alors, Marietou Bidanessi, en 2007, à 15 ans, vous avez décidé de vous marier, mais ce mariage a prospéré dans la violence. Avant de revenir en détail sur votre histoire, Marietou, dites-nous ce que vous pensez, vous, de la sensibilisation autour des violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales. Récemment, il y a un chiffre qui a été publié en début de semaine, une hausse de 10% des violences conjugales en 2020, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur français.
Bon, justement, je pense que c'est très important qu'il puisse y avoir des sensibilisations pour que les femmes puissent comprendre que ce n'est pas normal d'être violentée et de prendre conscience que être dans un mariage, ce n'est pas de se faire taper. Être dans un mariage, ce n'est pas de se faire rabaisser. C'est de vivre d'amour. Effectivement, il y a des disputes, mais voilà, à un moment donné, il faut sensibiliser le monde entier sur ça.
Direction tout de suite la Côte d'Ivoire. Là-bas, la création d'un comité national de lutte contre les violences basées sur le genre semble être insuffisante pour protéger durablement les victimes. Les cas de violences faites aux femmes sont récurrents, mais des organisations sur le terrain se battent pour les contrecarrer. Illustration dans ce reportage de Yannick Dianoun, qui est notre correspondant à Abidjan.
Selon l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, 416 féminicides ont été enregistrés en 2019 et 2020 dans la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce chiffre effroyable montre le niveau d'alarme du fléau des violences faites aux femmes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il ne se passe plus de semaine sans qu'un cas de femme gravement violentée ou violée ne s'y fasse enregistrer. La mère d'une victime de viol, le cœur visiblement meurtri, nous raconte les déboires de sa fille.
L'année passée, ma fille a été victime de viol par un jeune avec qui elle échangeait et qui l'a invité à prendre un pot. Et une fois sur les lieux, ce dernier abusait d'elle. Et les mois qui suivaient, nous avons constaté qu'elle était tombée enceinte. Ça n'a pas été un coup facile. Mais d'abord le viol et de plus encore qu'elle portait une grossesse de ce dernier qui avait effacé toutes les traces pour qu'on puisse le reconnaître. Elle se sentait tellement humiliée. Elle avait du dégoût pour elle-même. Elle se sentait rabaissée. Elle était devenue négative. Elle était devenue amère. Elle s'en voulait. Elle voulait même faire passer cette grossesse. Et elle ne cessait pas de pleurer. Elle ne mangeait pratiquement pas. Elle sortait pas de sa maison. Une fois même, elle a tenté de mettre fin à sa vie. Vraiment,
Le fléau inquiète au plus haut point et ce ne sont pas les mesures légales prises par le législateur pour dissuader les auteurs de ces violences qui vont refroidir leurs ardeurs. Des organisations de défense des droits de la femme et de protection de celles-ci travaillent sur le terrain pour apporter assistance et aide aux victimes. Marie-Paul Okri, responsable chargée des interventions sociales à la Ligue ivoirienne des droits des femmes, nous présente les dispositions prises par son organisation pour endiguer ce fléau.
Les actions que mène la Ligue pour protéger toutes ces femmes exposées à la violence sont multiples. On part déjà par la sensibilisation, fait comprendre à la personne, au potentiel violeur en face, qu'il n'a pas le droit en fait, de violer une femme, peu importe son accoutrement, le lieu, peu importe, il n'y a pas d'argument valable lorsque le consentement n'est pas respecté. Donc ça, c'est déjà une première action que nous menons pour protéger les femmes. Ensuite, nous les accompagnons juridiquement, psychologiquement. Toutes ces actions-là, mises ensemble, permettent d'avancer énormément dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, les violences envers les femmes ont explosé lors des périodes de restrictions liées à la pandémie. Ainsi, 30% des violences sexuelles ont eu lieu pendant le couvre-feu de mars à mai 2020.
Marieto, vous avez suivi avec nous ce reportage. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Ce qui a retenu mon attention, c'est quand la dame disait... Je n'ai pas retenu son nom, mais qu'il n'y a aucune excuse valable pour violer une femme. Peu importe son accoutrement, peu importe sa culture, peu importe sa religion. Et aussi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des mesures qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer d'arrêter ce fléau qui, malheureusement, fait beaucoup de dégâts.
Madame Oulimata Sarr, dans le reportage, il a été mentionné 416 féminicides pour le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a éventuellement des chiffres pour les zones que vous couvrez ?
Alors, la zone que je couvre, nous n'avons pas tous les chiffres sur les fémicides, mais c'est un fléau et c'est un fléau mondial. D'ailleurs, l'épicentre du fémicide, c'est l'Amérique du Sud. Mais je sais qu'au niveau de la région que je couvre, les pratiques traditionnelles d'un autre âge, que sont le mariage forcé, l'excision, les violences conjugales, sont vraiment au top de la liste. Je tiens à préciser aussi que c'était très intéressant d'écouter cette femme en Côte d'Ivoire, puisque effectivement, le viol ou le harcèlement n'a rien à voir avec ce qu'on a porté. D'ailleurs, je me souviens, il y a de cela 2 ans, nous avions organisé une exposition à Dakar qui s'appelait « Ce qu'elle avait porté ». Et c'était une exposition qui montrait que toutes ces femmes qui avaient été violées n'étaient pas forcément nues ou en mini-jupe, mais c'était des femmes vraiment de tous les jours qui avaient été agressées. Mmh. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut insister.
Absolument. Arlette, vous, ce reportage, dans ce reportage, il nous a été rappelé que les violences contre les femmes ont explosé partout dans le monde. Tout à l'heure, effectivement, Madame Sarr l'a mentionné, hein, il y a eu une explosion durant les confinements liés à la crise sanitaire du Covid. Vous, du point de vue de votre poste au sein d'ONU Femmes, que dire de ces violences contre les femmes qui ont explosé durant ces périodes difficiles?
Alors, je dirais déjà que j'ai bien apprécié le reportage qui a été fait sur la Côte d'Ivoire et qui montre toute la difficulté du travail que nous faisons, parce que malgré les avancées, nous, le tableau qui a été décrit en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le même dans tous les pays de la région que nous couvrons, au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous attaquons aux causes structurelles et aux causes conjoncturelles. La dame a présenté quelques-unes des interventions que nous menons, notamment pour l'amélioration du cadre juridique, mais il y a également tout le travail qui est fait au niveau communautaire avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les organisations de défense des droits humains, et qui font un travail très, très appréciable de sensibilisation au jour le jour, d'assistance holistique aux victimes. Mais malheureusement, nous constatons que malgré tout ce qui est fait, il y a une recrudescence de ces cas de violence, non seulement les cas de viol tels que cela a été présenté, mais l'on constate également que chaque fois qu'il y a une pandémie, que ce soit la COVID ou une autre, chaque fois qu'il y a une crise sociopolitique, chaque fois qu'il y a une crise humanitaire, chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, les femmes sont les premières victimes de violences. Et ça, la pandémie de la COVID-19 nous l'a très bien montré en 2020.
Madame Oulimata Sarr, en réponse justement à ces explosions de violences faites aux femmes durant ces périodes de crise, quelles réponses sont tout de suite apportées par le bureau ONU Femmes Afrique de l'Ouest et du Centre lorsqu'elles sont constatées?
Alors, n'oubliez pas que notre rôle en tant que système des Nations Unies, c'est d'appuyer nos États membres pour qu'ils puissent justement offrir ces services aux victimes. Je pense que pour être efficace, nous avons appuyé beaucoup de pays à avoir un cadre légal, puisqu'il faut déjà interdire et punir un certain nombre de comportements. Je tiens à rappeler, par exemple, quand depuis janvier 2020, le viol est criminalisé au Sénégal, alors que c'était un délit auparavant. Et donc, le cadre légal est extrêmement important. Et nous, en tant que Nations Unies, nous assistons les pays à avoir des standards, des normes en termes de droits des femmes. Nous les appuyons aussi à mettre en place un accès aux services. Et je sais que Arlette, qui travaille sur ces questions-là, c'est comment avoir des maisons d'accueil, des zones d'écoute. Les femmes au Sénégal, par exemple, les femmes juristes ont une association très connue qui a été établie depuis 1974. Et cette association de juristes bénévoles, appuyée par ONU Femmes et d'autres partenaires, a créé des boutiques de droit sur toute l'étendue du territoire. Et une femme vulnérable qui est violentée peut avoir accès à des services, un appui juridique, carrément un accompagnement durant tout son processus, bénévolement et gratuitement par ces groupes de femmes-là. Donc je pense que nous, en tant que Nations Unies, nous venons en appui aux politiques publiques, au gouvernement, pour justement que les victimes puissent avoir accès aux services, à un accompagnement juridique, donc accès à la justice, et aussi un accès à un soutien psychosocial.
Alors effectivement, on va revenir sur la société civile qui est très active sur le terrain. En témoignent les nombreux auditeurs et auditrices qui vont participer à cette émission dans quelques instants. Juste avant, on va faire une petite pause musicale en écoutant Joué Douette, Fille, t'aurais dû en parler.
Les meilleures portes avant, mais c'était pas ton tour. Et dire que t'as vraiment fermé les yeux par amour. J'ai rien vu et pourtant je te voyais tous les jours. Pourquoi tu n'as pas appelé au secours? Oh, j'ai pas su voir que chez toi c'était les favelas. Il a plu des larmes attristées sous mon umbrella. Ma feuille est blanche peut-être parce que j'ai plus eu les mots. Et dire que plein de fois je vous ai trouvé trop beau. Je comprends pas pourquoi je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Je comprends pas pourquoi je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et Mais dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Dès le premier coup, physique et mental, t'aurais dû en parler. Ton sourire caché son mal, t'aurais dû en parler. Toujours été là pour toi, t'aurais dû me parler. J'ai du mal à accepter qu'on ne puisse plus se parler. Oh, 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 oh. C'est trop tard aujourd'hui, on ne peut plus se parler. Putain, donc si je comprends bien, t'étais pas heureuse. Se marier pour qu'au final on te tape dessus. C'est pas cette fin que mérite une femme amoureuse. Si je pouvais revenir juste une heure en arrière, oh. Et pourquoi ont-ils aboli la peine de mort? Cette enculée ne mérite vraiment pas de vivre, non, non. Je m'en bats les couilles même si t'avais tort. Et alors, il avait juré pour le meilleur et le pire, oh. Je comprends pas pourquoi. Je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Je comprends pas pourquoi. Je me sens un peu responsable que tu ne sois plus là. Et dis-moi pourquoi tu ne m'as rien dit, je l'aurais tué si ça pouvait te sauver. Le premier coup, physique et mental, t'aurais dû en parler. Ton sourire caché ce mal, t'aurais dû en parler. Toujours été là pour toi, t'aurais dû m'en parler. J'ai du mal à accepter qu'on ne puisse plus se parler. Aujourd'hui on ne peut plus se parler.
Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI et nous parlons des violences faites à l'égard des femmes. Des auditrices et auditeurs nous appellent pour participer à cette émission, à l'instar d'Aminata Traoré, militante des droits de l'homme et auteure d'ouvrages pour sensibiliser aux mutilations génitales féminines. Elle a notamment écrit Le couteau brûlant. Bonjour Aminata.
Bonjour Diarra.
Merci d'être avec nous Aminata. Alors en quelques mots, pourquoi cette thématique vous tient à cœur, celle des mutilations génitales féminines?
Merci encore à vous. Cette thématique me tient à cœur parce que, étant une survivante, on va dire, de cette pratique, on va dire que de la victime, je suis devenue en fait un peu le visage de la lutte au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour ma part, j'essaye d'apporter ma modeste contribution à cette lutte et surtout aussi pour donner notre regard sur les femmes qui ont subi l'excision et surtout aussi interpeller en fait l'opinion publique en fait sur l'ampleur de cette pratique. Parce que j'ai l'impression que par moments, on pense que c'est vrai, on en parle. Mais c'est tellement dévastatrice. Et surtout, j'essaie de montrer à toutes ces femmes qui ont connu toutes ces formes de violence, que ce soit les mutilations génitales féminines ou bien les violences sexuelles, toute autre forme de violence, comment transformer en fait ce vécu traumatisant, difficile, en une force pour essayer d'aller de l'avant. Et cela passe par l'aspect surtout psychologique, surtout que le mécanisme de prise en charge en Afrique, surtout aussi dans nos pays, ça c'est le véritable parcours du combattant.
Et vous luttez justement et vous sensibilisez autour de cette cause depuis de nombreuses années maintenant, Aminata. L'excision que vous avez subie a été un réel traumatisme. Est-ce que vous avez constaté une certaine évolution dans le cas de la prise en charge de ces filles et surtout de cette pratique en Côte d'Ivoire?
Oui, mais quand même, je pense qu'il faut saluer en fait l'action quand même du gouvernement parce qu'aujourd'hui, on a une loi qui a été votée depuis 1998 qui interdit la pratique de l'excision. On a eu des condamnations. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cérémonies de dépôt de couteaux par rapport aux exciseuses, mais je dis toujours, finalement, on a plus fait pour les exciseuses que même pour les victimes de l'excision parce que jusqu'à preuve du contraire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de subvention qui est allouée pour pouvoir prendre en charge les séquelles liées aux mutilations génitales féminines. Mm-hmm. Et ça reste un véritable parcours du combattant. On parle de chirurgie encore réparatrice qui reste une solution. Mais pour ma part, le plus important, c'est l'aspect psychologique. Et déjà, nous qui sommes passés par là, malheureusement, nous avons eu cette malchance de rencontrer ce couteau brûlant qui est le titre de mon œuvre. Mm-hmm. On dit toujours, nous, en brisant ce mur du silence, cela va permettre aussi à toutes les autres femmes qui ont déjà vécu cela d'en parler et surtout d'interpeller nos parents.
et aussi d'interpeller le gouvernement, de faire beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à un niveau où on n'a plus cette excision collective, parce qu'avant, on pouvait aller jusqu'à 200, voire 300 filles qui étaient excisées. Mais aujourd'hui, on a des quelques cas, et je pense que le changement de comportement, d'attitude, c'est franchement à long terme, et j'espère de tout mon cœur, de tous mes voeux, que nous allons arriver d'ici à 2030 à cette tolérance zéro que nous
autour des mutilations génitales féminines. Voilà. Merci infiniment Aminata. Alors peut-être que votre message va faire écho à notre autre auditeur, Yacinthe Colli, qui nous appelle depuis Dakar. Il est le secrétaire exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Yacinthe, bonjour.
Bonjour.
Vous venez justement d'entendre le témoignage d'Aminata. Une réaction peut-être par rapport à ces paroles ?
Alors voilà, je salue d'abord l'assistance des internautes et ma sœur Aminata, avec qui nous menons cette lutte depuis des années, durant nos rencontres et dans nos différents pays. Mm-hmm. Alors, le cri de cœur d'Aminata, c'est un cri de cœur que nous entendons de manière quotidienne avec les femmes qui ont été victimes de ces pratiques au niveau de nos localités, au niveau de nos pays. Et cela encore nous pose la question de quelle est aujourd'hui la place que nous devons accorder à ces victimes qui sont aujourd'hui laissés à leur devenir, qui sont laissés à leur souffrance, et dont aujourd'hui nous crions haut et fort qu'il faut qu'il y ait des dispositifs de prise en charge, des dispositifs d'accompagnement, mais aussi surtout des dispositifs de réinsertion de ces victimes qui sont victimes de stigmatisation et de discrimination au sein de leur communauté. Aujourd'hui, ces femmes sont laissées à elles-mêmes et ont besoin d'être accompagnées en vue de leur réinsertion au sein de la communauté, mais aussi en vue de pouvoir participer au développement économique et social au sein de la communauté. C'est un combat que nous menons. Et aujourd'hui, au Sénégal, avec l'appui de plusieurs partenaires mmh. avec qui nous travaillons, nous essayons vraiment de dérouler des actions de terrain pour vraiment identifier, sensibiliser, former, mobiliser, informer et réinsérer ces victimes au sein de la société. Et si chacun d'entre nous peut contribuer à cela, main dans la main, nous allons atteindre nos objectifs.
Un mot justement sur vos actions que vous menez durant cette campagne Oranger le Monde, Yacinthe.
Comme nous travaillons exclusivement sur les thématiques des mutilations génitales et des mariages d'enfants, mm-hmm. nous allons bientôt aller dans la région de Sédhiou et de Kolda, mm-hmm. où nous prévoyons d'organiser des rencontres de plaidoyer. Avec,
ce sont des zones où ces types de violences sont récurrentes, toujours très présentes
voilà,
au Sénégal.
C'est des zones à fort taux de prévalence. Nous avons par exemple à Kolda avec 59%, nous avons à Sédhiou avec 49%. C'est des zones où vraiment la pratique est très développée. Cela est dû à deux éléments. Mm-hmm. Cela est dû d'abord à la pratique aux normes sociales. C'est des pratiques traditionnelles qui sont faites au sein des communautés comme forme d'initiation de passage à l'étape de jeune fille pour aller à l'étape de femme. Au niveau aussi de la religion, il y a aussi ces préceptes religieux. Parce que pour certains, c'est une pratique qui a été autorisée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et cela, aujourd'hui, pousse les parents, pousse les familles, pousse les femmes à continuer cette pratique-là. Et nous, durant ces jours d'activisme, nous allons organiser des rencontres de plaidoyer avec les chefs religieux, mm-hmm. avec les femmes exciseuses, en vue de leur conscientiser sur les conséquences néfastes de la pratique de l'excision et des barrières d'enfants sur le bien-être, la santé et aussi sur l'épanouissement de la femme et de la jeune fille.
Une dernière question, puisque les auditeurs sont nombreux à vouloir participer à cette émission. Pourquoi un homme s'implique autour de cette cause ? C'est bien, on parle des femmes. Vous faites partie du combat, vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive ?
Alors, nous sommes déjà des ambassadeurs Kifoshi. Pour nous, nous croyons qu'il est important de protéger, de lutter pour les droits des femmes et des filles. Et pour cela, les hommes doivent s'engager à accompagner les femmes dans cette lutte. Et nous croyons qu'il est temps que les hommes puissent donner la place aux femmes pour que les femmes puissent prendre la destinée de ce monde pour contribuer au développement et à l'épanouissement des femmes. Et aussi, nous croyons que les hommes doivent accompagner les femmes pour éliminer ces pratiques-là, parce que ces femmes sont nos futures femmes, sont nos enfants, sont nos sœurs, sont nos mères, et elles doivent être à l'abri de ces pratiques pour que vraiment nous puissions avoir un monde plus juste, plus épanoui et plus paisible pour tout le monde.
Merci infiniment Yacinthe, et merci à vous également Aminata. Votre combat nous est très cher, et courage surtout pour toutes vos activités menées.
Alors on dit quoi ? Jaranjay.
Nous prenons également en ligne Kadiatou Konaté. Kadiatou Konaté nous appelle de Guinée. Elle est la cofondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée. Kadiatou, bonjour.
Bonjour.
Kadiatou, vous œuvrez pour le respect des droits des filles. Une réaction par rapport au décès de la jeune Massila il y a une semaine des suites d'un viol collectif présumé par des médecins dans une clinique privée de Conakry dont vous avez certainement entendu parler.
Bien sûr, Massila malheureusement nous a quittés le samedi soir. Donc ça nous interpelle encore combien de fois que les questions de viol en fait prennent de plus en plus ampleur, c'est-à-dire à quelques jours. D'ailleurs, des 16 jours d'activisme, on voit en fait combien de fois les questions de violence faites aux filles et aux femmes en Guinée prennent de l'ampleur et que les questions de protection sociale sont encore à terre avec le système qui ne favorise pas forcément notre protection en Guinée.
Kadiatou, peut-être un mot sur les nombreuses causes que vous défendez. Pour le cas spécifique de votre pays, quel droit est principalement urgent, peut-on dire, à défendre ?
On dit très souvent tous les droits sont urgents, tous les droits. Si nous souhaitons ou si nous aspirons à vivre dans un monde meilleur, tous les droits sont urgents. On ne peut pas protéger un droit et laisser un autre droit, en fait. Quand on parle de la liberté de... par exemple, d'expression, et qu'à côté, la fille, elle est obligée de se marier, et qu'à côté, en fait, on la déscolarise, et qu'à côté, en fait, l'éducation n'est pas au top, c'est que ça reviendra à la même chose. Le respect des droits, au niveau de tous les droits, sont interdépendants, en fait. Si, en tout cas, nous aspirons à vivre dans un monde dans lequel nous parler de paix, de justice, d'égalité, c'est qu'il faut qu'on apprenne à respecter tous les droits. Donc, en Guinée, la question principale qui tourne autour des réflexions, c'est la question des mutilations génitales féminines. Parce que je rappelle en fait que la Guinée est placée deuxième pays au monde qui pratique le plus l'excision, d'après les dernières études qui ont été menées. Et d'après l'EDS en 2018 en Guinée, c'est que nous sommes à 95% des filles de 15 à 49 ans qui ont été victimes des MGF, y compris moi d'ailleurs, qui n'est pas exclue. Donc à côté, il y a les questions de viol qu'on entend de gauche à droite. Aujourd'hui, on parlait de Massila, même pas quelques heures après, je voyais un autre message d'une fille qui a été victime de viol, ainsi de suite. En fait, c'est le quotidien, ces questions de féminicide, de viol, de MGF, de mariage d'enfants et tout, et qu'après qu'on voit que les textes de loi en Guinée ne sont pas appliqués comme ça se devait, alors ça devient super compliqué, même si il y a quand même de plus en plus le silence qui est brisé autour de la question. Il y a des filles et des femmes qui acceptent de porter le combat et qui acceptent de briser le silence autour de la question, mais ça reste encore à désirer sur les questions de protection sociale en Guinée.
Merci infiniment pour votre témoignage, Kadiatou, qui me laisse rebondir justement auprès de vous. Mariée tout. On n'a pas encore parlé de votre expérience. Vous vous êtes mariée tôt, à l'âge de 15 ans. Décrivez-nous le début de votre union en quelques mots.
Passionnel, naïveté et plein d'espoir.
Des espoirs finalement qui se sont soldés par une désillusion.
Exactement.
2008, après votre accouchement, 3 semaines pour être plus précise, le premier coup arrive. Que s'est-il passé?
Je ne me rappelle plus exactement de ce qui s'est passé avant la dispute parce qu'on ne se rappelle jamais, ça part toujours de futilité. Mais je me rappelle que j'ai reçu des coups et je me suis dit bon... Je ne me suis pas défendue, j'en ai pas parlé et j'ai pensé que c'était peut-être une correction comme un père dans notre culture pourrait mettre à sa fille. Donc j'ai gardé le silence et ça a continué comme ça pendant des années.
Pendant combien de temps, à quel moment vous avez décidé de parler et de briser ce silence ?
Justement, la première fois que j'ai parlé, c'était en 2012, où j'ai parlé, mais pas des violences. J'ai parlé à mes parents que je souffrais, parce que j'avais des violences psychologiques aussi. Et la première fois que j'en ai réellement parlé, c'était à une instance sociale, mais vraiment très longtemps après. Et je pense même, je ne me rappelle plus de la date.
Et quel a été le déclic ? Pourquoi à ce moment-là, vous vous êtes dit en 2012, marié en 2007, mais ce n'est qu'en 2012 que vous avez décidé de parler ? Quel a été le déclic ?
Parce que j'avais d'autres modèles et que je venais d'avoir un autre enfant. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement ce que je veux pour mon enfant ? Et là, je pense qu'en étant de nouveau maman, on est face à notre responsabilité. Et à ce moment-là... C'était plus pour moi, en fait. C'était aussi pour mon enfant.
Et, c'est pour ça que et malgré tout, de 2007 à 2012, il y a quand même... Les violences ont continué.
Et les violences ont continué, mais on ne vivait pas ensemble. Donc, je ne me rendais pas vraiment compte qu'il y avait des violences, mais il y avait énormément de violences psychologiques plus que des violences physiques. Je pense que les violences physiques...
Tout à l'heure, Arlette nous décrivait le type de violences, des violences domestiques, sexuelles. Est-ce que vous avez subi ça, vous, également ?
Violences domestiques et surtout psychologiques. Violences sexuelles après.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est pas simple de parler des violences sexuelles, mais c'est vrai que je ne savais pas que j'avais le droit de dire non. Non, je ne veux pas.
Et aujourd'hui, vous savez que c'est possible.
Aujourd'hui, je sais que c'est possible.
Et est-ce qu'il y a eu, durant toute cette période de conflit, des médiations autour, avec la famille ? On sait souvent en Afrique, les parents, les oncles, les tantes viennent faire office de médiateur.
Effectivement, énormément de médiations, mais à ce moment-là, ça, je culpabilisais encore plus. Après les médiations, je me suis dit, effectivement, c'était peut-être à moi de faire plus, c'était peut-être à moi d'être beaucoup plus séductrice, c'était peut-être à moi
de... Vous êtes dure avec vous-même, hein ?
À ce moment-là, oui, à ce moment-là, j'étais très dure avec moi-même. À ce moment-là, j'étais dans une exigence de la femme dite parfaite.
Mmh. Est-ce qu'il y a eu des plaintes, des mains courantes ? Est-ce que vous vous êtes manifestée auprès des forces de l'ordre ?
Une semaine avant mon départ. Et ça, c'était en 2017.
Départ définitif ?
Après mon départ définitif.
D'accord. Et comment ça s'est passé ?
Très, très mal passé.
Très, très mal passé.
Et je me rappelle encore, c'était un lundi soir, j'ai appelé la police pour la première fois. Et la police ne m'a pas défendue. Elle m'a clairement offensée en me disant que j'étais capable de me défendre, vu mon gabarit, et que je pouvais même mettre un couteau sur mon oreiller pour me défendre. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, même la police ne m'aide pas, et que c'était à moi de prendre ma responsabilité.
Et donc, vous êtes partie chercher de l'aide auprès de qui ?
Je suis partie de chercher de l'aide auprès d'une assistante sociale qui m'a dit, mais madame, partez ou vous allez mourir.
Mmh. Et donc, c'est ce que vous avez fait. Donc, en 2017, vous avez divorcé ?
En 2017, j'ai divorcé.
Quel a été votre sentiment dès lors qu'on vous a dit que vous étiez libérée de ce calvaire ?
On ne me l'a pas dit. Personne ne m'a dit que j'étais libérée. C'est un ressenti que j'ai eu, pas tout de suite après mon départ, mais je dirais bien une année après, quand j'ai compris, parce que ça a été pas simple. J'ai eu des périodes où je n'avais pas d'hébergement, j'étais SDF. Et à un moment, je me suis dit, oui, mais c'est vrai. Mais en fait, tu n'as plus personne qui te dit ce que tu dois faire. Et donc là, oui, je suis libre et je l'ai même fêté. Je me suis offert un gâteau qui s'appelait Révélation. Et voilà, j'ai su que j'étais libre à ce moment-là.
Et c'est toute cette période qui a donné naissance à une nouvelle mariée. Tout aujourd'hui, vous semblez en parler de façon détachée, en parler de façon libérée.
Exactement, exactement. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à prendre conscience de la femme que j'étais. Je me suis révélée, comme j'aime bien le dire, je me suis révélée. Et je me suis dit, mais mon bonheur n'appartient pas à quelqu'un. Et effectivement, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'aller demander de l'aide. J'ai pas besoin de l'autre pour exister. Et ça fait de moi la Marietou que je suis aujourd'hui.
Une Marietou qui donne des conseils et qui sensibilise autour des violences faites aux femmes.
Exactement,
sur les réseaux sociaux.
Exactement. S'aimer soi d'abord. Et ensuite, on attire à soi le positif. C'est ce que j'aime bien dire. Et effectivement, donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes à reprendre confiance en elles, à retrouver leur estime d'elles-mêmes. Et à dire non. Surtout à dire non, je ne veux pas.
Non, c'est possible.
C'est possible.
Bravo en tout cas, Marietou, pour votre courage. Il faut le saluer. Peut-être un mot, Oulima Tassar, autour du témoignage de notre invitée d'aujourd'hui, Marietou, qui a subi certaines violences durant de nombreuses années lors de son mariage.
D'abord, je tiens à la féliciter. Je suis extrêmement fière d'elle, puisqu'il est très important de libérer sa parole et surtout d'amplifier la voix d'autres femmes. Je souhaiterais aussi rebondir sur ce que Yacinthe a dit tout à l'heure et peut-être apporter quelques clarifications. L'excision n'est pas islamique. L'excision date du temps des pharaons, donc avant l'islam. Et ce sont des pratiques traditionnelles de l'Égypte qui finalement s'est mélangée à l'islam et s'est retrouvée en Afrique subsaharienne. Nous avons tenu d'ailleurs une grande conférence au Sénégal sur l'excision en 2018 au King Fahd Palace. Et nous avions invité justement des soufis, des littéraires, des scholars, comme on dit en anglais, de l'université Al-Azhar d'Égypte, qui justement avaient expliqué cela et avaient même lancé la fatwa de Dakar. Donc je tiens toujours, quand j'ai un micro, à préciser ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une pratique islamique. Il a aussi mentionné quelque chose de très fort. Il a parlé du hifoshi, et je ne suis pas sûre que tous les auditeurs savent c'est quoi le hifoshi. Les femmes du monde entier, pendant très longtemps, ont fait leur plaidoyer toutes seules. Il y a de cela quelques années, Olufam a décidé de lancer une campagne qu'on appelle le hifoshi, le lui pour elle, qui est en fait une campagne qui disait aux hommes champions de venir s'engager sur notre agenda. Et aujourd'hui, le mouvement He for She des hommes champions compte, je ne sais pas moi, le président Kagame, Macky Sall, voilà, Obama. La liste est très longue d'acteurs, de décideurs qui, eux, disent aussi « je protège ma sœur, je suis garant de leur intégrité ». Et je pense que c'est quelque chose de très important et je tenais aussi à l'éclaircir.
Mmh. C'est très important, vous n'avez pas tort, Madame Olimata-Sarr, d'apporter ces précisions importantes à nos auditeurs. Autre volet que nous n'avons pas encore abordé autour de cette lutte contre les violences faites aux femmes, peut-être la question de l'autonomisation. Vous qui êtes aujourd'hui directrice régionale du bureau ONU Femmes à Dakar, et vous êtes également une ancienne de la Banque mondiale, finalement deux mondes peu différents, puisque cette question de l'autonomisation est également à l'ordre du jour.
Absolument, je pense que c'est aujourd'hui, avec les objectifs du développement durable, peut-être certains s'en souviendront, en 2015, le monde entier s'est mis d'accord pour atteindre 17 objectifs, passant de la santé pour tous, zéro faim. Je dis toujours aux personnes que je rencontre, si vous devez vous souvenir d'aucun objectif à atteindre d'ici 2030, souvenez-vous au moins du numéro 5. Le numéro 5, c'est l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, puisque nous sommes convaincus que c'est l'ODD le plus catalytique de tout le reste, de l'éducation, de la santé, du climat. Et finalement, le monde du développement est convaincu aujourd'hui qu'il faut libérer le potentiel des femmes. Il faut libérer leur potentiel économique, particulièrement sur le continent, en leur donnant accès aux ressources. Voilà, et en leur donnant une place à la table, à la gouvernance de nos pays.
Arlette Bicomo, peut-être un mot sur les progrès obtenus en matière d'égalité des sexes et des droits des femmes. Vous êtes au bureau régional qui est basé à Dakar. Le Sénégal a notamment une volonté manifeste de mettre fin à ces violences. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces lois qui ont notamment été mises en place récemment pour criminaliser le viol et la pédophilie ?
D'accord. Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur les très beaux témoignages que nous avons entendus.
Ah oui.
Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire comment éviter tout ce traumatisme, comment éviter ces parcours de combattants. Nous voyons des survivantes qui ont pu rebondir, qui aujourd'hui s'expriment, sensibilisent et appellent à l'action. Mais je pense à toutes celles qui n'ont pas eu la chance de pouvoir vivre cette transformation. Et je me dis comment nous pouvons prévenir justement ces violences. Parce que pendant des années, nous avons mis l'accent sur ce que nous appelons la réponse, c'est-à-dire gérer les cas de violences sexuelles, les cas de violences psychologiques, émotionnelles, etc. Mm-hmm. Mais je pense qu'il est temps, comme l'option ou bien les orientations qui ont été prises justement par le système des Nations Unies, de travailler sur les questions de prévention. Comment pouvons-nous ensemble, tous les acteurs, prévenir ces questions de violence pour que d'ici 2030, qui est notre objectif par rapport à l'agenda 2030, nous n'ayons plus tous ces témoignages qui sont été présentés aujourd'hui sur le plateau. Mmh. Maintenant, pour revenir à votre question sur le Sénégal, je dirais que la loi qui a été adoptée en janvier 2020, criminalisant le viol et la pédophilie, et aussi le résultat d'une très, très forte sensibilisation des organisations de la société civile suite à des cas de violence qui étaient assez récurrents au niveau du Sénégal. Alors, cette loi, elle a été adoptée en 2020 et depuis, le ministère en charge des questions du genre, avec l'appui des organisations de la société civile, des organisations onusiennes, et dans une logique véritablement d'assurer la vulgarisation de cette loi pour favoriser sa connaissance par tout le monde, pour favoriser également son appropriation. Et je pense que c'est une très belle démarche parce que la lutte contre les violences à l'égard des femmes, ce n'est pas une affaire des organisations de la société civile, ce n'est pas une affaire du ministère en charge du genre, mais c'est une affaire qui demande l'implication de tous au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau familial, au niveau sociétal. C'est la raison pour laquelle cette démarche de vulgarisation de région en région auprès de tous les acteurs administratifs, secteurs privés, communautaires est très importante pour qu'on puisse justement permettre aux femmes d'utiliser cet instrument pour qu'elles puissent libérer leur parole, pour qu'elles puissent dénoncer, pour qu'elles puissent porter plainte, mais surtout prévenir à travers la sensibilisation.
Merci infiniment. Une sensibilisation menée par notre auditrice qui nous appelle aujourd'hui, Aissata Amadou Boukoum. Elle est malienne et coordinatrice de l'association Citoyenne Elle. C'est également une ancienne du Parlement des enfants du Mali. Aissata, bonjour.
Bonjour, Djaranjay.
Assatou, vous, votre réponse pour accroître le droit des femmes, elle passe par un système de mentorat pour les filles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, comme je vous l'ai dit, notre structure, en fait, a opté pour le mentorat parce que beaucoup d'entre nous, en fait, sommes des anciennes, non seulement du Parlement des enfants, mais d'autres structures aussi de protection des enfants et de jeunes. Donc, on s'est dit, la formation que nous avons eue, c'est cette formation-là qui nous a permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Par exemple, moi qui vous parle, moi, j'ai échappé à plusieurs tentatives de mariage avant d'avoir l'âge de 18 ans. Et ça, c'est grâce aux activités et aux formations que j'ai eues en tant que membre du Parlement des enfants, les activités de plaidoyer, les activités sur nos droits et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas offrir ces mêmes opportunités-là encore à nos sœurs pour qu'elles puissent se développer, qu'elles prennent conscience de leur rôle dans le développement du pays, qu'elle s'assume et qu'elle s'implique.
Aissata, vous venez de mentionner que vous avez évité à plusieurs reprises un mariage forcé. Est-ce qu'il y a une particularité des violences basées sur le genre au Mali? Est-ce que c'est un fléau qui est récurrent par rapport aux autres?
Oui, par rapport aux autres, il y a en fait deux violences, le mariage des enfants et l'excision qui ont beaucoup plus de taux au Mali. Par exemple, selon les DSM-6, qui est l'enquête de démographie de santé au Mali, en 2018, l'entrée en union en fait est de 18% avant l'âge de 15 ans et de 53% avant l'âge de 18 ans pour les filles. Et le taux de prévalence de l'excision était de 89% pour les filles et femmes de 15 et 49 ans et 73% pour les filles de 14 ans, 18 à 14 ans. Donc vous voyez, en fait, ce sont les taux les plus élevés.
Mmh. Merci infiniment pour votre témoignage, Aissata.
Alors, on dit quoi ?
Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, juste avant de conclure. Je vais donner la parole à Mounir. Il nous vient tout droit de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Il est le président et cofondateur de Social Sport et Performance. C'est une association qui a mis en place le projet Pédale. Mounir, bonjour.
Bonjour Gérard.
Alors, entre autres activités, hein, je parle de celle-ci puisqu'il faut expliquer à nos auditeurs pourquoi vous êtes là. On parle aujourd'hui des violences faites aux femmes. Que signifie ce projet de projet pédale, lutter contre les violences conjugales?
Alors, durant cet été, avec 7 jeunes de la ville de Mantes-la-Jolie, on a parcouru un Paris-Montpellier à vélo pour lutter contre les violences conjugales. Cette initiative, elle est née d'un premier voyage qu'on a fait avec mon ami Mossab l'année dernière. On a fait un Paris-Nice à vélo. C'était juste après le confinement, c'était durant l'été. Et on s'est dit qu'on allait découvrir notre pays, découvrir la France, et y aller surtout pour aller à la rencontre des gens. Parce qu'on avait, pas mal d'appréhension, on avait pas mal d'idées reçues sur les personnes qu'on allait rencontrer. Et ça a été tout l'inverse. Et à cette action qu'on a menée avec Mossab, on a allié utile à agréable. C'est-à-dire qu'on a monté une cagnotte pour un orphelinat au Maroc. Et on a réuni plus de 2200 euros pour cet orphelinat. On s'est dit que c'était une expérience incroyable où on a vu énormément de choses, où on a appris beaucoup de choses. Et on s'est dit qu'on allait la renouveler, qu'on allait mettre en place une action et qu'on a essayé de la mettre en place avec un public et essayer de renouveler la chose en sensibilisant les personnes autour de nous sur une action. C'est fait durant le confinement, enfin, on est tous au courant de ce qui s'est passé pendant le confinement avec malheureusement
l'explosion des violences faites aux femmes. Et c'est ce qui a été le déclic pour cette opération où vous parcourez 700 km à vélo pour sensibiliser autour de la violence faite aux femmes.
C'est ça. Et l'actualité a démontré que c'était une problématique de société, c'était une problématique qui touchait absolument tout le monde. Et de ce fait-là, on s'est dit avec les jeunes qui nous suivaient de sensibiliser les personnes qui allaient nous suivre à cette action-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une cagnotte pour le CIDFF des Yvelines. Qui accompagne...
Centre d'information des droits des femmes et des familles.
C'est ça, qui accompagne cette question-là, mais pas que.
Et on a donc réuni... cette cagnotte va leur être versée bientôt.
Oui, elle va leur être versée bientôt. Bon, pour des problématiques d'agenda, c'est un peu compliqué, mm-hmm. mais aujourd'hui, on a 1670 euros de récolter, ce qui est vraiment pas mal pour une problématique comme celle-ci, parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est où est-ce que va aller cet argent, à quoi va servir cet argent. Et concrètement, là, ces 1670 euros, ils vont servir au CIDFF de mettre en place un atelier où ces victimes de violences vont pouvoir parler, vont pouvoir discuter avec des personnes.
Libérer la parole à ces victimes. Parole, un autre volet de votre action, c'est la réalisation de ce documentaire, présenté il y a quelques jours lors de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Que raconte ce documentaire, en quelques mots?
Alors, ce documentaire, il raconte le périple à vélo avec ces jeunes-là. Il essaye de mettre de rendre la problématique un peu moins lourde, d'essayer de mettre un peu nos délires dans le documentaire, notre joie de vivre, notre jeunesse. Et il raconte aussi, et il prend les témoignages de victimes, d'une victime homme, d'une victime femme. Mm-hmm. Enfin, l'idée de ce documentaire, c'est de vraiment sensibiliser les personnes à la violence conjugale, les éduquer et leur donner un outil qui va leur permettre d'avoir tout un spectre autour de cette violence.
Merci infiniment. Alors, bonne continuation surtout et tenez-nous au courant pour l'avancée de ce documentaire qui sera disponible peut-être bientôt pour le grand public.
Bah, l'idée là du documentaire, c'est d'essayer de trouver des financements pour totalement le terminer,
d'accord,
le peaufiner.
Donc l'appel est lancé.
C'est ça, l'appel est lancé.
Merci infiniment, Mounir. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Il nous reste 30 secondes. Oulima Tassar, je vous laisse 30 secondes pour conclure et ensuite on donnera le mot de la fin à Marietou qui est à mes côtés.
Merci beaucoup. Moi, je pense que si nous devons relever le défi de l'éradication des violences faites aux femmes, nous devons augmenter notre représentativité dans les instances de décision. Beaucoup de gens ne le savent pas. Sur les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre que nous couvrons, 9 pays ont une forme de quota de traitement préférentiel pour les femmes, pour leur représentativité au niveau de l'Assemblée ou du gouvernement. Le Sénégal est un pays pionnier qui, depuis 2010, a 50%, un quota de 50% pour l'Assemblée nationale. Nous avons le Cap-Vert aussi, mais nous avons le Burkina, le Tchad, le Niger, des pays dont on ne parle pas souvent, qui ont aussi des quotas qui rendent les listes électives irrecevables si elles ne sont pas paritaires. Donc, il nous faut être à la table de la décision et ce serait mon mot de la fin.
Mot de la fin. Merci infiniment, Oulima Tassar. Je rappelle que vous êtes directrice régionale ONU Femmes Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci également à Arlette Bicomo, qui est conseillère régionale sur les violences faites aux femmes et aux filles, pour ce même bureau. Marietou, le mot de la fin, un mot.
Un mot. Bravo. Et force
bravo
et courage.
À toutes ces femmes.
Bravo à toutes ces femmes.
Merci infiniment. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci infiniment à toute l'équipe d'Alors on dit quoi, Mariam Beverly, Dibril, Jérémy et Guillaume. Et merci à vous, chers auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Obnono Hagongal. À bientôt.
On oublie que la santé est un droit.
Géopolitique.